Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région. Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
D'une situation qui peut paraître catastrophique, qui peut nous enfoncer complètement, il faut savoir faire une pause, comme disaient les Anglais, step back, hein, se prendre un peu prendre du recul. Peut-être un petit grain de folie au départ pour se dire allons-y. Choisis un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie.
Aujourd'hui sur le podium, je suis heureuse de recevoir un homme dont l'énergie est contagieuse, Sébastien Romé. Avec une formation en mathématiques appliquées, il devient ingénieur en gestion logistique. Un burn-out et un licenciement plus tard, il change de vie. Et à 40 ans, il devient cuisinier dans l'idée d'ouvrir une maison d'hôte. Retour à l'école pour apprendre un nouveau métier, se lancer des défis, inventer, innover, partager et décider de vivre de sa passion. Aujourd'hui, nous découvrons un entrepreneur qui fourmille d'idées, un homme qui a le goût du risque et qui, après être passé dans les plus belles cuisines, a finalement décidé qu'il n'ouvrirait ni sa maison d'hôte, ni son restaurant. Alors, qu'est-ce qui fait courir ce chef indépendant au parcours atypique ? Nous nous sommes rencontrés lors d'un cours de cuisine et j'ai eu envie de connaître sa recette du bonheur. Bonjour Sébastien.
Bonjour Caroline.
Alors, qu'est-ce qui vous fait courir Sébastien ? Comment ça s'est passé tout ça ?
Oh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, qu'est-ce qui me fait courir, c'est la passion. Je pense que c'est le fait de travailler en s'amusant, c'est de s'amuser en travaillant, c'est de trouver toujours quelque chose qui me motive, qui me fait rire, qui me fait bouger, qui me fait apprendre.
Mais quand vous faisiez des mathématiques appliquées, c'était drôle ?
Oui, c'était drôle, bien sûr. Oui, en tout cas, c'est drôle dans la mesure où je suis un vrai scientifique dans l'âme, dans le fond. Hein. J'ai quand même un certain nombre d'années. Alors, c'était pas vraiment un diplôme d'ingénieur que j'ai eu, mais c'était une +5 en mathématiques appliquées. C'était vraiment dans l'objectif de faire des mathématiques quelque chose de concret et d'utile. Effectivement, la logistique, la gestion des stocks, tout ce qui est gestion de production, ça peut paraître rébarbatif comme ça, mais quand on a un esprit un peu tordu, matheux comme le mien, bah finalement, c'est assez amusant. J'aime bien les jeux. J'aime bien les jeux de chiffres, j'aime bien les jeux de mots avec des chiffres, j'aime bien les tout ce qui est un peu geek comme ça, un peu scientifico tordu. Donc ça m'est resté, même si ça fait quand même longtemps que j'en fais plus, que je suis plus là-dedans. Je suis ravi de voir que mon fils est dans cet esprit-là, puisqu'il a fait une école d'informatique. Donc je suis très heureux de voir que j'arrive encore à suivre ce qu'il fait en maths sup, pas spé, enfin en info sup, info spé, et puis que finalement on a le même humour, c'est chouette.
Alors, mais comment ça vous est venu ce goût de la cuisine ? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que vous êtes ce qu'on appelle un chef indépendant. Alors, un chef indépendant, ça veut dire que vous donnez aussi bien des cours de cuisine, vous faites de la cuisine à domicile, vous avez votre propre entreprise également parce que vous déployez, on va y revenir, mais des kits pour faire son beurre tout seul, sa bière tout seul, sa moutarde tout seul, etc. Ce qu'on appelle le « do it yourself » aujourd'hui. Mais comment ça a commencé en fait ? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? D'abord, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment on change de vie comme ça aussi radicalement ?
Alors, changer de vie aussi radicalement, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que déjà d'abord, comment on peut être aussi passionné ou aimer ça. Simplement, c'est déjà parce que j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses. J'essaie toujours de découvrir de nouveaux produits. J'aime bien découvrir. Enfin, il y a pas grand chose dans la vie en termes culinaires, en termes de plats, en termes de produits que je saurais pas manger. Enfin, je suis même goûté déjà des vers, des insectes, des choses comme ça. Première chose à dire, effectivement, c'est que j'adore bien manger.
Donc, c'est surtout que vous êtes curieux parce que je sais pas si c'est bien manger les insectes.
Si, c'est rigolo, ça peut être bon, il y a quelque chose qui sont pas mal. Quand on voyage, j'ai eu la chance, déjà en tant qu'ado, enfant et jeune adulte avec mes parents, on a pas mal voyagé à l'étranger, donc on a quand même goûté pas mal de cuisine. Et puis en tant que ensuite professionnel, quand j'ai travaillé chez Mars, j'étais beaucoup en déplacement. Et voilà, que ça soit, j'en sais rien, passer 3 mois au Mexique, et ben on va manger des choses que parfois on n'a pas l'habitude de manger, hein, les fameux petits verres qu'il y a dans le fond de la bouteille de mezcal. Ben là, c'est dans une assiette, c'est grillé au beurre, et puis c'est à manger comme ça. Ou les œufs de fourmi, ou les criquets, enfin voilà, donc faut être...
Oui, faire Koh-Lanta, quoi.
Non, même pas, parce que je suis pas un aventurier dans ce sens-là. Moi, je suis pas un gros, je suis pas un gros sportif plus que ça. Mais non, c'est vraiment le côté curiosité. Depuis tout petit, dans les jambes de ma grand-mère ou de ma mère, j'étais toujours en cuisine à essayer de voir comment ils faisaient. Puis j'aime bien ça, quoi. Puis quand j'étais étudiant, j'étais toujours à cuisiner pour les potes. Il y avait toujours un frigo bien plein avec toujours les bonnes choses. J'ai bossé dans des restaurants et des bars quand j'étais étudiant. Donc voilà, pour moi, ça faisait partie d'un tout. C'était quelque chose qui était important.
C'est un univers que vous aimiez bien.
C'est ça, exactement. Et effectivement, à l'époque, pas forcément dans une optique professionnelle. C'était à l'époque, c'était parce que j'aimais bien manger, que j'aimais bien faire ça, j'aimais bien partager, j'aimais bien recevoir à la maison, j'aimais bien faire des bons petits plats pour les potes et les copains et copines, tout ça, quoi.
Donc, vous aimez faire à manger pour les copains, mais c'est pas pour ça qu'on devient chef cuisinier. Donc, il y a bien eu un déclic.
Ouais, ce déclic, il est surtout arrivé après quand même une bonne vingtaine d'années d'une vie professionnelle bien remplie qui n'avait rien à voir avec la cuisine, puisque j'ai travaillé donc après mon école de mathématiques appliquées, j'ai fait une formation spécialisée, enfin un bac plus 5 en, comme je disais, en gestion logistique, gestion de production. J'ai passé quelques années dans une SS2I sur Paris, qui donc une société de services en informatique, hein, qui était spécialisée sur un logiciel qui s'appelait SAP, donc un gros logiciel de gestion d'entreprise. Et de par ce fait, j'ai été embauché après par un client chez qui j'ai été envoyé qui s'appelle Mars. Mars, les chocolats, Mars, tout ce qui est pet food, hein, donc les Whiskas et autres marques de nourriture pour aliments pour animaux, pour les Uncle Ben's, enfin voilà, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. C'est une énumuleuse assez imposante comme entreprise américaine, mais avec un bon esprit, en tout cas au départ, une bonne philosophie, une bonne façon de manager les gens, une bonne façon de manager le business. Pendant quelques années, je me suis vraiment épanoui dans cette entreprise. Et vraiment, c'était passionnant, c'était intéressant, beaucoup d'apprentissage. Et puis, tout en anglais, donc voilà, j'ai pu aussi m'améliorer et m'épanouir dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Et puis, bah, déjà à l'époque, j'étais quand même déjà reconnu comme étant la personne qu'il fallait voir quand on avait un resto à conseiller. Bah, va voir Sébastien, il va te donner un bon petit resto, et que ce soit effectivement à Strasbourg, mais même partout où j'allais en déplacement. En général, quand j'étais en déplacement, j'allais pendant un an et demi dans une ville, dans un pays, donc que ça soit au fin fond de la Hongrie ou j'en sais rien, moi, à Copenhague ou à Dublin, et ben à chaque fois je me faisais ma petite liste des restos qui étaient sympas à faire et puis des endroits qu'il fallait faire. Donc j'étais un peu monsieur restaurant de Mars à l'époque, c'était assez rigolo. Et voilà, donc ça a duré une bonne quinzaine d'années chez Mars. J'ai monté les échelons, j'ai pris pas mal de responsabilités, je suis devenu manager et manager de manager. Donc voilà, c'était intéressant. À ceci près qu'un rythme de vie, un rythme de déplacement qui était un peu lourd à vivre, hein. J'étais très, très, très souvent en déplacement, 4-5 jours par semaine. Et des pressions que je me mettais aussi beaucoup moi-même. On a parlé tout à l'heure un peu d'un bon petit burn-out. Effectivement, c'est des situations qui sont à la fois difficiles à vivre, mais qui en même temps sont, j'utiliserai le terme salvatrice dans la mesure où quand on se prend un grand choc comme ça, quand on se prend une grosse baffe ou quand on a...
Donc le burn-out chez vous, c'est ce que ça a créé en fait. Vous étiez malade, vous dormez plus.
Ouais, c'est ça. Enfin... C'est ça. C'est-à-dire qu'on bosse 80 heures par semaine, on dort pas la nuit, très très peu, et puis on est très stressé, et puis on est tout le temps à s'auto-flageller, s'auto-critiquer. J'aime bien l'exemple on a un comité de pilotage d'un projet. Le chef de projet que j'étais doit, en comité de pilotage, présenter les avancements du projet ou les retards ou les problèmes pour demander de l'aide. Moi, j'étais plutôt dans une démarche à dire je vais dans une réunion où je vais me faire engueuler parce que j'ai pas fait mon boulot. Alors que c'est pas du tout le cas, c'était pas du tout le but. Si c'est bien préparé, bien présenté, et que dans une structure comme pouvait être Mars, bah finalement, si j'avais été un peu plus suivi, aidé peut-être par mon management aussi, qui était remote, hein, qui était à l'étranger, peut-être que j'aurais été un peu différemment. J'étais jeune manager à l'époque, et je pense que je me suis mis trop de pression. Il y avait pas mal de soucis sur le projet avant même que je le commence, donc voilà, j'ai essayé de tout faire et puis tout rattraper avec mes petits bras, et puis en fait je me suis épuisé, donc voilà. Après le fait est qu'effectivement c'est une situation douloureuse et je ne remercierai jamais assez ma petite femme et puis mes enfants qui m'ont soutenu à ce moment-là. Effectivement, Sophie, ma femme, a été clé dans le fait de sortir de ça. Elle m'a soutenu. J'ai eu pas mal d'amis collègues ou d'amis extérieurs, famille, qui m'ont aidé également. Mais on ne s'en sort que soi-même, en fait. Quelque part, le fond du fond, c'est juste à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic, se dire, en fait, c'est pas de ta faute. Enfin, c'est même pas une histoire de faute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de ça? Qu'est-ce qu'on fait pour, alors, soit je m'enfonce et puis, bah, voilà, je suis sous calude. Et puis je vis ma vie les 10 prochaines années sous antidépresseur. Soit je me dis je tiens le coup et puis de toute façon on va rebondir, on va faire autre chose derrière. Et le point c'est que on s'en sort, c'est très bien, on m'attaque, tac tac tac, et puis le projet il est délivré, et puis ça se passe bien, et puis après on passe sur un autre, et puis après on est promu, puis après on a d'autres types de jobs. Mais qu'est-ce que j'ai appris en fait là cette année et demie a été très douloureuse. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de revivre? Oui, non. Quels sont les signes que j'ai pas été capable de voir à ce moment-là? Pourquoi je suis tombé finalement? Pourquoi je me suis complètement ramassé? Je me suis vraiment, pardonnez-moi l'expression, cassé la gueule. Et j'ai pas su comment gérer la chose. Et ouais. Le principal, c'est de se dire après coup, voilà, qu'est-ce qui ferait que si ça revenait, je saurais l'identifier. Puis
je saurais gérer, ouais.
Et ce qui s'est d'ailleurs avéré être le cas, puisqu'un peu plus tard, j'ai eu aussi beaucoup de fatigue au travail dans une autre activité et de stress et tout ça, et j'ai su identifier les choses et que j'ai pu rebondir et réagir différemment. Mais voilà, c'est d'une situation qui peut paraître catastrophique, qui peut nous enfoncer complètement, il faut savoir faire une pause, comme disaient les Anglais, step back, hein, se prendre un peu prendre du recul, identifier les causes, identifier les signes surtout physiques. Hein, moi qui suis passionné de cuisine, j'étais abonné à une revue professionnelle de cuisine alors que j'étais encore chez Mars. Hein. Je la lisais même plus. Enfin, mes piles s'accumulaient. Je lisais plus ça. Je cuisinais plus. Le week-end, je prenais plus aucun plaisir. Donc voilà, il y a des petits signes comme ça. Et puis la fatigue, et puis le manque de sommeil. Enfin bref.
On écoute de la musique dans ces moments-là, Sébastien?
Toujours. J'ai toujours écouté beaucoup de musique, mais j'étais plutôt dans une musique très très noire, qui est peut-être entretenu cette situation. Puis bah, vers la fin, on redevient un peu plus normal. Puis on réécoute des musiques qui sont péchues, qui sont sympas.
Alors, ce burn-out sera suivi d'un départ de Mars, finalement.
Pas immédiatement, hein, puisque le burn-out m'a permis de rebondir chez Mars, d'avoir une autre activité, un autre rôle. Je suis passé de chef de projet à directeur de projet, au responsable, on appelait ça, je ne sais plus, programme manager, je crois. Donc, j'avais du coup plusieurs projets à gérer par des chefs de projet qui travaillaient pour moi. Donc, ça a quand même duré 6 ans avant que je parte de chez Mars. Il y a eu 2 ou 3 plans sociaux. Voilà, Mars, comme beaucoup de grosses entreprises, fonctionne aussi sur des résultats qui doivent être toujours au top, etc. Donc, on va centraliser, on va optimiser les équipes d'informatique, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, voilà, ils ont essayé plein de choses. Et puis, il y a eu 2, 3 plans sociaux pour lesquels ils demandaient ou ils proposaient du volontariat. J'ai vraiment hésité. J'étais là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je pense que j'étais pas mûr encore à partir. Et puis, au troisième, je me suis dit, ah, quand même, ce serait peut-être pas mal. J'approchais la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine ou la fameuse, ce petit pivot souvent.
Midlife crisis,
ouais. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de me positionner puisque mon rôle a été supprimé. Mon job disparaît. Bon, ben voilà, Sébastien, normalement, tu pars, mais normalement dans les 18 mois qui viennent tu auras peut-être un autre, on te proposera quelque chose parce que tu partiras que dans 18 mois, donc voilà, t'as le temps quoi. Et puis finalement c'est à ce moment-là je me suis dit non, je reste pas. D'une part, c'est une sorte de licenciement puisque je suis désigné en fonction des critères tatata. Puis en même temps je me dis ouais, mais voilà, ce petit coup de pied aux fesses, que c'est peut-être ça qu'il me fallait, c'est peut-être ce petit moment-là qui, donc hop, allez, on prend tout ça et puis on fait ça dans nos conditions, puisque un licenciement social dans des grosses boîtes comme ça, c'est aussi quand même généreux, on va dire. Enfin, c'est des conditions de départ, des conditions de mise au chômage qui sont quand même plutôt confortables. Donc voilà, c'était le bon moment, je pense. Après, c'était mais quoi faire après?
Oui, c'est ça. Parce qu'au final, vous passez d'un planning archi chargé avec des voyages, pas le temps de faire quoi que ce soit, à rien.
C'est ça. Alors, c'est pas à rien, parce qu'en fait, déjà à je prends du temps pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part d'une grosse boîte, quand on parle d'un job comme ça, quand on refait sa vie professionnelle, il faut savoir réfléchir sur ce qu'on ne veut plus faire. Avant même de savoir ce qu'on veut faire, j'ai dû un peu réfléchir, mais en fait, qu'est-ce qui me déplaît dans mon job? Est-ce que, en gros, après Mars, j'irai dans une autre boîte comme ça? Est-ce que je pars dans du conseil? Parce que j'avais suffisamment de compétences dans le domaine notamment des SAP, des gestions de production, tout ça, pour me dire, oui, finalement, je pourrais très bien me mettre
à mon compte.
Voilà, je recrutais souvent pour mes équipes des consultants extérieurs qui étaient payés encore même plus cher que moi. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je me lance en indépendant et puis c'est bon. Ouais, mais voilà, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que voilà, je sais pas. Et donc voilà, c'était vraiment se dire qu'est-ce que je veux plus faire. Et puis au fur et à mesure, ça commence à germer sur. Mais attends, mais vraiment. Parler des voyages, ça fait 5 ans que tu voyages, tu fais 2-3 pays par semaine, tu vois pas trop ta famille, quand tu es en déplacement, tu es toujours à l'hôtel, dans des gros hôtels, certes confortables, chic et tout ce qu'on veut, mais quid de la partie personnelle de la chose, quid de la partie confort, enfin je veux dire interpersonnel, quoi, le côté familial, le côté amical, voilà, tous ces gros hôtels 3, 4, 5 étoiles, c'est évidemment toujours confortable, mais c'est impersonnel. Et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de se dire, mais quand finalement les gens viennent aussi à Strasbourg, ils vont pareil dans ces gros hôtels, et ben si je leur proposais une alternative à cette situation, avoir quelque chose de luxueux, quelque chose de confortable, quelque chose d'accueillant en termes de chambre, etc., mais avec un accueil en plus, quelque chose qui soit personnalisé, c'est-à-dire le concept un peu de chambre d'hôte, de petite auberge dans laquelle effectivement j'apporterais toute mon expérience de voyageur, toute mon expérience d'hôte également, de cuisinier, en tout cas cuisinier amateur. Et puis, ah ouais, c'est pas bête ça, c'est pas bête, ça serait pas mal.
Mais avant ça, le premier matin où vous vous réveillez sans devoir aller au boulot, vous étiez un homme toujours parti de la maison, puis d'un coup vous êtes à la maison. Comment ça se passe ça dans la tête?
Ça fait du bien. Premièrement, ça fait du bien parce que finalement, c'est chouette d'être toujours en déplacement, mais en même temps, c'est pas si chouette que ça parce que ça m'arrivait le matin de me réveiller dans mon hôtel et pas me rappeler dans quel pays j'étais. Et puis, c'est la famille qui manque. Enfin, voilà, c'est mes enfants que j'ai pas vus pendant.
Donc là, d'abord, on fait le plein de famille.
On fait le plein de ça. Ouais, ouais. On profite du fait d'être à la maison. On profite du fait de. On prend du temps pour glander. Hein, c'est bête, hein. Mm-hmm. Poser pour.
On y arrive.
Pour faire peut-être un peu de sport. Ah bah oui. Enfin, pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment. On tourne en rond et surtout on est. Mais quelque part, non,
Vous aviez besoin de
ça. Parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de ça, ouais. Ouais, on a besoin. Et puis c'est nécessaire pour construire quelque chose d'avoir des fondations solides. Bah, on construit une maison sur la boue, bah, ça bouge. Si j'ai besoin de reconstruire quelque chose, si j'avais pris dès le début une décision en disant ouais, c'est ça que je vais faire, j'aurais pas forcément eu la même solidité de structure en dessous. Et voilà, on parlera un peu plus tard, mais effectivement, la maison d'hôte, ça s'est pas fait. La restauration, ça s'est pas fait pour de bonnes raisons, de très, très bonnes raisons, qui peut-être ne se seraient pas passées si, ou auraient changé différemment si j'avais pris une décision tout de suite. Donc, fallait bien mûrir la chose et puis bien réfléchir sur ce que je voulais plus faire et ensuite après sur ce que je voulais faire.
Mmh. Mais ce qui est bien, c'est que vous étiez dans une mentalité positive, en fait. Mmh. Il n'y avait pas de regrets, c'était un choix réfléchi. Voilà, c'est important, ça.
Ah, c'est assez rigolo parce que je crois qu'à aucun moment ou très, 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 très rarement, je n'ai pas de souvenir de m'être dit « Ah, t'es quand même bête de partie, t'aurais dû quand même insister, puis t'aurais dû rester. Et puis, elle était quand même chouette, cette vie-là, quoi. » Oui, elle était chouette, ouais. Mais bon, on tourne la page, on passe à autre chose. Au contraire, c'est même plus que pas grave, c'est chouette. Et puis j'ai construit
une
bagage.
Chance, quoi. Vous avez pris les choses comme si c'était une chance.
C'est ça. Ouais. Et puis j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont fait tellement évoluer que finalement, j'ai l'impression d'avoir été enrichi d'une certaine partie de cette vie-là par rapport à là, si j'avais fait autre chose, j'aurais peut-être été enrichi différemment, évidemment. Hein, mais voilà, c'est bon, j'ai fait ça. Top. Tic, là, comme on dit les Anglais, tick in a box. Enfin, je coche une case, ça c'est fait, je passe à autre chose. J'ai pas l'impression que c'est difficile en fait. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas.
Parce que effectivement, vous aviez peut-être, vous n'avez pas brûlé les étapes, parce qu'on pourrait dire ça. C'est-à-dire que vous avez fait les choses petit à petit, vous avez laissé mûrir le projet, vous avez échangé, réfléchi, décidé. Vous n'avez pas subi.
Tout à fait. Même si dans la dimension, il y a une partie qui est subie, finalement, même ce qui est subi peut être utilisé comme une opportunité, en fait. Faut voir voir toute action et toute situation comme une opportunité pour faire quelque chose.
Mais ça, c'est votre tempérament, vous l'avez pour tout, ou bien vous vous êtes découvert comme ça
Je pense que je suis un indécrottable optimiste, ouais.
Vous l'avez toujours été.
Optimiste. Ouais, je pense, ouais.
Alors, dites-moi, donc, vous décidez, donc votre premier projet, c'est la maison d'hôte. Donc, pour ça, il faut faire quoi? Il faut quand même un diplôme en cuisine, faut retourner à
l'école.
Pas
du tout, parce que maison d'hôte, en tant que telle, c'est pas tant culinaire. Moi, je voulais en faire quelque chose de culinaire. Je voulais en faire quelque chose avec du partage, avec des cours de cuisine, avec une table d'hôte où les gens pourraient participer et puis bien manger et puis voilà, même la déco, etc. Avoir quelque chose de vraiment orienté autour de la cuisine. À Strasbourg, il fallait que ce soit à Strasbourg Centre en plus.
À Strasbourg Centre. Ah oui.
Ouais. En fait, l'idée, c'était vraiment de dire, mais il existe des chambres d'hôtes, hein. Mais l'objectif qui était de pouvoir accueillir des voyageurs business, des voyageurs pro qui souhaitent avoir un peu de chez eux en déplacement, c'était plutôt de le faire en ville. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent à Strasbourg, ils vont pouvoir sortir après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et c'était, fallait que ça soit. Pour moi, c'était vraiment une des points clés, c'était fallait que ça soit centre-ville.
Centre-ville. Et où ça?
Je partais d'un constat où il y avait pratiquement rien. Bon, soit sur l'île, soit sur les faubourgs autour, hein. Il y avait, à l'époque, il n'y en avait que deux à Strasbourg. C'était que des hôtels. Donc, en plus, en tant que résident de ce lieu, il fallait aussi que ce soit central. Moi, je suis un vrai citadin. Pour moi, je dois vivre en ville. Je suis un vrai... Et voilà. Et donc, j'ai beaucoup cherché. J'avais quand même pas mal de... un bon capital, donc je pouvais me permettre pas mal de choses. Et en fait, j'ai jamais trouvé un lieu qui correspondait à ce qu'il fallait. C'est-à-dire un lieu qui soit à la fois suffisamment grand pour que notre chez-nous, notre logement, notre habitation...
Ah, vous auriez déménagé la famille.
C'est même obligatoire. Enfin, on est obligé, quand on a une chambre d'hôte, maison d'hôte, d'avoir au moins un lieu commun. Enfin, pas un lieu commun, mais en tout cas que ça soit dans le même bâtiment. Mais par contre, il fallait que ce soit séparable, c'est-à-dire qu'on, j'en sais rien, si on achetait un immeuble de 3 étages, qu'on ait tout le rez-de-chaussée et premier étage pour la maison d'hôte, et puis au-dessus pour la maison 1, maison, quoi. Et il fallait qu'il y ait une dichotomie, une séparation réellement entre la maison et l'activité, sinon ça devenait très intrusif. Et c'était une des seules conditions que ma femme m'imposait, c'était vraiment qu'on n'ait pas notre salon.
On ne vive pas dans la maison d'hôte, soit, ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fallait pas que nos invités soient dans notre salon,
chez
dans
vous.
Notre maison d'hôte. Chez nous, voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, j'ai quand même compris, réalisé que pour ma femme, c'était un vrai problème. C'était pour elle, hein. Même si on avait une séparation réelle physiquement, que ça aurait pu lui causer... Elle est plutôt quelqu'un d'indépendante. Elle n'aurait pas aimé être envahie par la clientèle tout le temps. Même si on n'était pas envahi géographiquement dans notre maison, le fait qu'à 11h, un client puisse appeler pour dire « j'arrive vers 11h30, est-ce que vous pouvez m'ouvrir, machin ?» ou « à 5h30, faire un petit déj. »
Ouais, c'est hyper intrusif, en fait.
C'est hyper intrusif. Donc, même si dans le fond de moi-même, je reste persuadé que ça aurait pu se faire, dans le fond, et un peu plus en avant, il est vrai que, j'accorde à ma femme cette vérité que ça aurait été un peu difficile. Et il s'avère qu'en fait, juste quand j'ai décidé d'arrêter ce projet, il s'avère qu'en fait, il y a eu Airbnb qui s'est lancé. Et donc, avec d'un seul coup, du jour au lendemain, 2500 ou 5000 appartements de particuliers qui ouvraient leur marché pour des gens qui pouvaient s'installer sur Strasbourg. Donc, je pense que je me serais pris probablement une grosse claque business à ce moment-là, puisque je pense que même si je me serais servi d'Airbnb comme moyen de recruter des clients, j'aurais également eu une concurrence juste énorme et probablement assez déloyale. Une fois de plus, l'un dans l'autre, ça a été très bien. J'ai pas perdu mon temps. J'ai quand même, pendant cette recherche de lieu, j'ai fait un CAP cuisine dans un...
Donc, vous vouliez quand même vous former en cuisine.
Je voulais me professionnaliser quand même.
C'était une corde de plus à votre
un peu de crédibilité.
Ouais,
c'est ça. Je voulais me confronter aussi à la réalité, c'est-à-dire que on me dit que je cuisine bien, on aime bien ce que je fais à manger, j'aime bien ce que je fais à manger, mes enfants, tout ça, mes amis, mais quelque part, est-ce que c'est assez pro pour en faire un métier, quoi.
Un business, quoi.
Et donc voilà, j'ai voulu plutôt me confronter à des vrais professionnels, à la fois du lycée hôtelier Alexandre Dumas qui crée cette année-là une section pour les adultes. Ou également pour les restaurants dans lesquels on a eu la chance de pouvoir faire des stages et des passages assez longs, le plus long possible pour effectivement mettre les mains dans le cambouis et puis expérimenter pour de vrai. Et confirmer d'ailleurs à ce moment-là que c'est bien pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais pas, et je savais déjà à l'avance que je voulais pas faire un restaurant.
Vous faites le CAP cuisine, c'est combien de temps?
C'est un an.
Un an. On a le temps d'apprendre... il faut savoir cuisiner, j'imagine.
Pas forcément. Il y était 12 dedans. Il y en avait sur les 12 adultes. On n'était pas nombreux à être déjà passionnés de cuisine. Les autres étaient, il y en avait deux ou trois qui avaient peut-être même jamais tenu un couteau. Il y en avait.
Mais pourquoi ils font un CAP de cuisine alors?
Il y en a, c'est par reconversion, on va dire, c'est soit Pôle emploi, soit telle ou telle entreprise qui les a licenciés ou autre qui leur a conseillé d'eux, soit c'est par choix personnel parce qu'ils se sont dit pourquoi pas, j'aime bien manger, donc pourquoi pas. Et puis, il y en avait une petite moitié pour lesquelles c'était vraiment une vraie volonté de faire de la restauration ou de travailler dans le milieu de la cuisine.
Alors, donc, vous faites ce CAP, il y a une musique qui vous rappelle un peu ces moments où vous retournez finalement apprendre?
Ce serait plutôt des musiques très, très dynamiques, très rigolotes, des choses comme Java.
Voici le petit type arigot qui pillave à tire l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, chronomètre les pulsions du jour. En 8-6 en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulé en apnée, ça y est, c'est parti. Rampe de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pression. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, bois de ma finesse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de vomi. Luke Sky, un Johnny Walker, nous nous embourbons. Faut colmater le foire à fond. Et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA. J'ai la nausée, trop de kryptonique.
C'est une période qui est assez plutôt joyeuse parce qu'en cuisine, on n'écoute pas beaucoup de musique, étonnamment.
Donc ce CAP, évidemment, vous l'avez, je ne pose même pas la question. Et ça vous ça vous donne pas l'envie d'ouvrir votre restaurant? On peut ouvrir un restaurant avec un CAP cuisine?
On peut ouvrir un restaurant même sans CAP cuisine, on peut ouvrir un restaurant, on peut ne pas avoir du tout d'expérience culinaire. J'ai un très bon exemple qui est une très bonne amie maintenant qui s'appelle Florian Zitz, qui est une chef qui était en fait auparavant, elle était psychologue. Elle a voulu faire cette formation que j'ai faite, elle n'a pas été prise pour X ou Y raison, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Elle a ouvert son resto. Puis
elle a ouvert son resto.
Elle s'est lancée, elle n'avait pas de CAP, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir un CAP. Et maintenant, elle est réputée au milieu de ses pairs, payée à IRS et elle fait une très belle cuisine. C'est une pro maintenant.
Et donc vous ne voulez pas ouvrir votre resto, pourquoi?
C'est déjà parce que c'était pas mon objectif. Je sortais d'une boîte où je bossais 60-70 heures par semaine avec les déplacements. C'était pas pour avoir ma propre entreprise de ce type-là. Alors pour d'autres raisons également, c'est une vie assez belle parce que c'est quand même, on fait des belles choses si on est bon cuisinier. Et en même temps, il y a également un côté peut-être un peu train-train. Alors à la fois tous les jours au même endroit et tous les jours faire la même chose. Même si on change sa carte toutes les semaines, bah, finalement ouais. Pendant toute la semaine, on va faire les mêmes plats. Et physiquement, voilà, j'ai 50 ans, c'est assez physique, hein, mine de rien, quand on est toute la journée avec le coup de feu dans certaines cuisines et il fait 45 degrés, en plein coup de feu, vous êtes devant le piano, bien sûr, le piano musical, hein, mais le piano les aliments. Il fait très 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 chaud, il fait très humide, c'est des horaires de fou. Enfin, donc voilà, c'était pas du tout pour moi.
Bon, donc il faut de nouveau se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est ça. Et puis en fait, j'ai commencé à ce moment-là à faire des petites activités de chef à domicile, de faire un peu de traiteur. Et
donc chef à domicile, ça veut dire que je vous appelle et vous venez faire la cuisine chez moi. Vous vous faisiez connaître comment?
Alors, c'était au début vraiment par bouche à oreille.
Bouche à oreille.
Vraiment par bouche à oreille. Et puis aussi, c'est au même moment où j'ai commencé à faire quelques cours de cuisine pour les gens que je connaissais également. C'est-à-dire vraiment le côté un peu participatif, le côté un peu partage déjà de ce que j'aimais faire. Et je suis parti d'un constat que j'étais pas équipé chez moi pour faire ce type d'activité. Et donc, je me suis dit, ça serait pas mal que j'ai mon labo. Un labo, une cuisine pro qui soit équipée, mais en termes d'investissement, que pour mon activité de consulting ou mon activité de chef à domicile, c'est peut-être un tout petit peu sur...
Mais à cette époque-là, vous étiez toujours, on va dire, sous couvert de votre licenciement ou vous étiez déjà tenu de gagner votre...
J'étais encore tout à fait dans mon chômage parce que j'étais en création d'entreprise, donc effectivement, d'accord. J'avais déjà créé ma société de conseil. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premiers kits avec donc un ami d'enfance qui avait une entreprise qui s'appelle Radier Capucine, donc Jean-Sébastien Griffaton, qui est un ami de collège. On était ensemble au collège à Angers, dans l'ouest de la France. Et lui, il avait une belle entreprise qui s'appelle Radier Capucine, qui fait toujours d'ailleurs, des petits kits de plantation. Il a repris la boîte de ses parents qui faisait du courtage en graines potagères, graines de semences, etc. Et puis, il a voulu transformer ça de la graine pour la porter auprès des gens, des particuliers, donc les enfants, pour apprendre la germination, comme on apprend à l'école, hein, vous savez, avec les petits haricots qu'on met dans le coton et puis ça pousse, et ben, comment ça marche, etc. Puis de fil en aiguille, ça s'est passé au-delà des enfants, les adultes, quand on a un petit balcon, une terrasse, quand on a un rebord de fenêtre en ville, quand on a un beau jardin à la campagne, ben, comment utiliser les graines. C'est quelqu'un de passionné et un jour, il a un peu une guerre avec un de ses gros clients qui était Nature et Découverte, qui lui apprenait depuis déjà une dizaine d'années des beaux kits comme ça. Et donc, il se retrouve avec un stock de graines qui était un peu vendu. C'était des graines de moutarde, je me souviens à l'époque. Et donc, il me dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je dis, bah, t'as qu'à faire un kit pour faire ta moutarde. Je dis, il me dit, je sais pas faire ça, je suis pas cuisinier. Je dis, écoute, moi, j'ai ma boîte de conseils culinaires. Si tu veux, je bosse dessus. Et donc, de fil en aiguille, j'ai travaillé dessus pour trouver une belle recette de moutarde de Dijon. Je lui propose 2-3 essais, 2-3 exemples, 2-3 trucs après 2-3 semaines de réflexion. Et puis, il me dit, banco. On présente ça à son client principal, Nature et Découverte, qui dit « Waouh, super, ça nous plaît, banco également ». Et puis, de fil en aiguille, voilà, on a commencé à développer des choses comme ça sur…
Donc, tout ce qui était packaging, commercialisation, etc. Ça, c'est vous qui l'avez imaginé ?
Alors, moi, je faisais vraiment la partie… Donc, recettage, déjà, la partie vraiment première, c'est la partie technique de la chose. Donc, technique, c'est-à-dire recette, qu'est-ce qu'on met dedans, quel type de produit on va mettre, quelle quantité. En fait, il y a plein de gens qui ont une cuisine simplement fournie, mais qui ont quand même, on a tous du sel, du poivre, la farine, du miel, les choses comme ça. Tout ce qui est effectivement facile à avoir, on ne le met pas dedans. Par contre, trouver une graine de moutarde noire qui est pas forcément évidente, mais qui est celle que on trouve pour la moutarde de Dijon et qui en plus est bio et qui en plus de la région Bourgogne, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, nous, on va fournir tous ces éléments qui sont un peu compliqués à trouver. On est exclusivement en bio, donc notre objectif aussi…
Donc, en plus de la graine, il y a quoi dans le kit ?
Là, en l'occurrence, à l'époque, il y avait des petits pots, il y avait des différentes épices, il y avait plein de choses qui permettaient effectivement d'apprendre. Et puis surtout, il y avait un livret qui était écrit avec des photos, avec très, très, très expliqué, très détaillé, avec une petite histoire, c'est pourquoi ça pique, pourquoi ça monte au nez, pourquoi ci, pourquoi ça, etc.
Et donc ça, c'est vous qui l'avez écrit ?
Pédagogique. Ça, c'est moi qui le faisais. Et donc, Jean-Sébastien et Radier Kipuissier ne s'occupaient d'acheter les ingrédients, les mettre dans une boîte, il a une petite cuisine à ranger, et puis après, de trouver des clients et puis les distribuer, quoi.
D'accord.
Moi, j'avais vraiment la partie qu'on appelle R&D, hein, recherche et développement, même si j'étais complètement externe et si je suis toujours. On se trouve d'autres idées, on en vend beaucoup, beaucoup. Les premières années, c'est par quelques milliers, donc on se dit, ouais, c'est fou. Je reprends contact avec l'ancien patron de mon père, qui à l'époque était commercial dans la présure. Vous savez, cette espèce de mélange d'enzymes qui permet d'être un coagulant pour faire le fromage. Donc, tout fromage français AOP doit utiliser la présure animale. Et ça permet effectivement de produire un cahier qui permet de faire son fromage. Je dis, pourquoi pas faire un kit pour faire son fromage. Donc, j'ai contacté l'ancien patron de mon père, qui s'avère être le fils de l'ancien patron de son père. Donc, en fait, le fils de mon père donc, travaille avec le fils de patron. Enfin, c'est des histoires comme ça familiales. C'est super chouette parce que finalement, je suis allé dans un site en Bourgogne où ils fabriquent la présure et puis j'ai discuté avec le fils du patron de mon père. C'était chouette, quoi. Une histoire familiale assez marrante. Et puis voilà, et puis d'autres, tout plein d'idées qu'on a fait ces yaourts, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre à l'époque? On a fait ces sauces pimentées, on faisait son pain.
Et ça cartonne chez Nature et Découverte.
Ça a cartonné dès le début et puis ça cartonne toujours. Le kit moutarde, je crois qu'on en prend encore autour de 20 000 par an. Donc, pas que Nature Découverte, parce que maintenant, on en vend un peu partout, mais que ce soit ça ou fromage ou autre, ça, c'est fromage, bière et moutarde sont les trois premiers qu'on a fait, et c'est les trois qui marchent le mieux depuis toujours et qui continuent encore à cartonner. Donc c'est assez chouette. Donc, bière, effectivement, voilà comment faire sa bière à la maison. Enfin, voilà, au début, j'avais une image de la bière maison et du vin maison tellement pas bon que je disais, il faut quand même qu'on ait quelque chose de qualitatif, quoi. Et puis finalement, en creusant, en faisant des tests, enfin, je sais pas combien de centaines de brassins j'ai pu faire depuis que j'ai commencé, et surtout dans des volumes que tout un chacun peut faire à la maison.
Ouais, c'est ça.
Ça, le truc, c'est qu'on va pas faire du 50 litres, on va pas faire du 2000 litres, on va faire du entre 4 et 20 litres, quoi. Et donc, on avait avec le minimum de matériel possible, nécessaire à la maison, on est capable de faire tout ça. Et c'est ça qui est ludique, c'est cette partie-là aussi, pour moi-même. Comment je peux faire pour tourner quelque chose qui est normalement pro pour le faire à la maison? Et que ce soit effectivement, parce qu'à ce moment-là, en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser à Cuisine Aptitude, donc un atelier de cuisine à Strasbourg, et je me suis associé avec le patron Nicolas Jean à l'époque, et puis, tout en continuant mes kits à côté, j'ai amené le bébé avec moi dans l'entreprise. Et c'est un continuum, en fait. C'est un tout. L'idée, c'est de partager et d'expliquer aux gens comment faire, comment moi je pense qu'on peut faire les choses, et puis m'améliorer si j'ai raté le truc. Et puis voilà. Et donc, donner des cours de cuisine, et puis faire des ateliers aussi bien chez le particulier que pour une entreprise qui vient faire son team building. Et ça, je le faisais déjà quand j'étais chez Mars. C'est-à-dire que quand j'étais chez Mars, j'ai emmené mes équipes faire un team building. ces sorties de fin d'année avec l'équipe, bah, au lieu d'aller faire un quad, un paintball, une rando en forêt ou autre, bah, on allait faire la cuisine ensemble. Donc j'emmenais mon équipe, surtout étrangère, c'était intéressant parce que je faisais des ateliers macarons, des ateliers de cuisine française. Et l'idée, c'était de cuisiner ensemble. On enlève toutes les barrettes de hiérarchie ou quoi que ce soit. Et puis, on est ensemble. Et puis, à la fin, on déjeune, on dîne de ce qu'on a préparé en tant qu'équipe, quoi. Donc voilà, en parallèle, je commençais à faire et les kits et en même temps, je faisais cette activité de cours de cuisine.
Donc là, vous commencez à gagner votre vie grâce à ça.
Oui, bien sûr. Ça avait commencé déjà depuis... les premiers kits commençaient déjà à être assez intéressants financièrement. Et puis là, effectivement, avec Nicolas, dans quelle cuisine aptitude, en tant qu'associé, voilà, alors je me payais beaucoup moins que ce que je pouvais me payer quand j'étais chez Mars. Mais ça, c'était un choix personnel. C'était aussi un constat à me dire, bah, oui, enfin, en même temps, je peux profiter de la maison tous les jours et j'ai pas besoin de... C'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi et discuté avec mon épouse.
Donc, du coup, votre labo, c'est à la maison là-dessus.
Alors, au début, mon labo est à la maison. Ensuite, il est à Cuisine Attitude, donc dans l'atelier lui-même, où on a effectivement une salle pour faire des cours, mais qui peut aussi servir pour faire de la photo culinaire, pour faire des tests, des essais, la préparation, des choses comme ça. Puis voilà, puis ça dure 4 ans, si je ne m'abuse. Et au bout de 4 ans, l'activité était exceptionnelle, puisqu'on faisait aussi bien des cours pour... On a fait 2400 personnes en 3 jours pour faire des ateliers pendant un salon culinaire qui s'appelle les Gast à Strasbourg, comme pour faire des ateliers pour les enfants, pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités très intéressantes, mais en même temps assez qui phagocytait un tout petit peu trop mon activité de consulting. Et j'arrivais pas en fait à trouver suffisamment de temps même avec mon équipe pour pouvoir développer plus en amont, plus en avant les kits. Donc voilà.
Retour à la boulimie de boulot.
Exactement, ça a commencé à devenir un peu compliqué. Enfin, c'est surtout qu'en fait, quand on a c'est un chapeau que je peux tirer à tous ceux qui ont un commerce. Quand on réalise qu'en fait, un commerce, c'est un commerce qui s'ouvre aux heures d'ouverture. Alors, ça paraît un pléonasme, mais c'est ça. C'est qu'en fait, on ouvre du lundi au samedi. C'est de 8h30, 9h le matin jusqu'à...
On ne peut rien faire d'autre.
Parfois, 23h le soir. Eh bien, on ne peut rien faire d'autre. La boutique doit être ouverte. On a des ateliers dedans, donc il faut animer les ateliers. Et puis, on a des groupes le soir. Eh bien, il faut animer les ateliers le soir et puis il faut aussi les accueillir. Donc, on a un peu l'avantage et le défaut des toutes petites TPE, comme ça, les petites structures, les petites entreprises, c'est qu'on a à la fois...
On est au four et au moulin.
Mais on est au four et au moulin. Et en même temps, on a beaucoup de soucis des PME et PME-TPMI et en même temps, pas les moyens de gérer tous ces soucis. On n'a pas de RH, on n'a pas de comptable. Ce qui fait qu'on doit tout faire. On s'use un petit peu et puis on se démotive. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, de toute façon, qu'est-ce qui me fait le plus kiffer ? C'est effectivement ce que je fais avec mes kits. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de continuer à faire des cours de cuisine. Comme un accord avec mon associé, je me suis relancé en indépendant en disant, ben voilà, moi, je continue à donner des cours autant que tu veux, autant qu'il y a besoin. J'adore ça, donc je peux venir chez Cuisine Aptitude autant que nécessaire. Mais à côté, moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour mon activité de consultant. J'ai continué à faire un peu de chef à domicile. Et puis, toute cette activité-là, je l'ai refaite en tant qu'indépendant, finalement, mais en prenant un peu plus... en ayant un peu plus le luxe, si je puis dire, de choisir ce que je faisais. Si on me demande de faire du traiteur, bah, traiteur, je ne vois pas trop d'intérêt. Par contre, si c'est du traiteur ou, je vous donne un exemple, quelqu'un qui me demande d'être traiteur pour une soirée d'anniversaire de 50 ans où il y a 50 personnes, bof. Par contre, si la personne qui fête ses 50 ans, je lui propose de venir avec 7-8 copains l'après-midi et puis on cuisine tout l'après-midi pour faire son
buffet. Pour le dîner du soir.
Les 50 invités du soir. Là, on passe une après-midi complète avec ses 5-6 meilleurs copains. Et puis, bah, on s'éclate tout l'après-midi, on a des petits coups, et puis on cuisine, et puis je leur fais des cours, mais en même temps, ils préparent et ils produisent. Et à la fin, il y a les 50 invités qui arrivent, qui disent wow, celui qui fête son anniversaire, il a dit c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté participatif, ce côté groupe, ce côté fun, puisqu'on a passé un super moment, quoi. Et puis moi, je m'occupe de toute la partie embêtante pour eux, c'est-à-dire les courses, machin, faire les recettes, et puis tout ce qui est nécessaire, qui est compliqué quand on n'est pas pro, quoi. Puis on a continué aussi à développer des kits, on en fait de plus en plus, et puis on a aussi développé beaucoup plus la marque Radier Capucine. Et donc, même si je suis extérieur, je fais quelque part un peu partie de la maison, et puis grâce à mon expérience Cuisine Aptitude, je les ai aidés à ouvrir leur première boutique, type d'atelier, donc c'est sur Angers, dans le Maine-et-Loire, une belle boutique dans laquelle il y a à la fois, on peut acheter des kits et on peut acheter du matériel pour faire soi-même. Mais également, il y a des ateliers physiques. On peut faire atelier de brassage, atelier de cuisine. On peut faire des ateliers pour faire, si vous connaissez, c'est Kokedama. C'est de l'art... L'art floral japonais. C'est des petites des boules de mousse dans lesquelles une fleur sort ou une plante sort. Ça va être des terrariums, des choses comme ça. Voilà, un lieu qui est un superbe lieu qui, j'espère, verra des petits frères et des petites sœurs partout en France, parce que c'est juste magique. On peut apprendre à tout faire dedans.
C'est le do-it-yourself qui est tellement à la mode aujourd'hui.
C'est ça, le temple du do-it-yourself. Et puis en fait, tout ça, c'est à la mode aujourd'hui. Ça fait déjà 10 ans que c'est à la mode, et ça fait déjà 10 ans qu'on est, enfin même plus que ça, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans ce domaine-là et qu'on aime ça et qu'on sait le faire, quoi. Donc cette partie-là, voilà, m'a vraiment passionné. J'ai effectivement pas du tout regretté d'arrêter la gestion d'une entreprise de cours de cuisine, mais même j'y suis toujours, j'y vais encore tout à l'heure. Enfin voilà, c'est un lieu sympa.
Alors qu'est-ce qu'on donne comme conseil à tous ceux qui ont envie de parce que bon, le jour où vous changez de vie, alors vous en avez parlé à votre entourage, vos amis, etc. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui vous disent oh, mais t'es fou, mais quel risque, mais est-ce que tu es sûr, mais j'oserais pas, mais... Enfin bref, tout le monde ne vous a pas encouragé en applaudissant dès demain.
J'ai pas forcément grand monde qui m'a dit « non, fais pas ça, t'es fou ». Déjà d'une part, parce que quand je suis parti chez Mars, j'avais pas eu trop le choix au départ, même si après le choix, j'en ai fait mien. Mais malgré tout, ça a plutôt été « waouh, je suis impressionné, t'es courageux », plutôt que « non, t'es fou, fais pas ça, quoi ».
D'accord.
Par contre, c'est ouais, t'es fou, je suis impressionné. Moi, je ne saurais jamais le faire. C'est plutôt dans cet esprit-là que j'avais des commentaires ou des gens en face de moi. C'était plutôt de me dire, je ne sais pas comment tu fais, j'aurais trop peur de me planter, j'aurais trop peur de. Et puis, comment tu vas faire pour la maison, et puis, comment tu vas faire à la maison.
C'est ça, peur de changer son quotidien, en fait, hein, sa routine.
Bien sûr. En même temps, entre un quotidien où. Enfin, je gagnais très, très bien ma vie, hein, enfin, quand j'étais. Quand j'étais chez Mars, je gagnais très très bien ma vie, et puis ma femme qui travaillait à côté, voilà, dans l'ensemble, on avait quand même une vie confortable. Mais en même temps, j'étais pas beaucoup là pour en profiter. Donc entre ça et puis finalement gagner moins, mais être là tous les jours, et puis finalement profiter de plaisir de la vie différemment. Enfin, je prends souvent l'exemple. Avant, je suis un gros gros fan de BD. Quand je m'achetais je rentrais dans un magasin de BD, je m'en achetais 10 d'un coup, et puis c'était pas toutes les semaines, mais pas loin, quoi. Maintenant, quand j'ai des BD, je me les offre ou je me les fais offrir pour mon anniversaire ou Noël, et j'en profite 2 fois plus qu'avant, quoi, voire 10 fois plus qu'avant, parce que c'est déjà c'est quelque chose qui est plus c'est un luxe, mais c'est quelque chose qui est plus c'est pas un bien de consommation courante, quoi. Enfin, j'ai pas acheté.
Oui, ça devient plus rare. Quoi.
C'est ça.
Et, est-ce que ça veut dire que vous avez changé? Vous avez changé votre état d'esprit par rapport à la vie?
Sur la consommation en général, bien sûr, ouais. Sur la consommation en général, sur la vie, sur. Puis on s'est aussi beaucoup posé la question avec ma femme, est-ce que tu penses qu'on s'en sortira? Est-ce qu'on y arrivera? Enfin voilà. Donc oui, c'est cette partie-là est inquiétante, mais très clairement avec Sophie, ça a été non, mais on va y arriver. On verra, on ne sait pas encore comment, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Puis on se débrouillera. Et puis s'il faut qu'on mange des patates au début ou des nouilles, c'est pas grave, on aime bien les patates et les nouilles, donc c'est bien. C'est pas gênant, on mettra des sauces avec, et puis comme ça tous les jours on mangera différemment. Mais c'est effectivement on mange beaucoup de riz ou de pâtes, mais c'est pas grave, on aime ça. J'ai aussi changé une partie de ma consommation, enfin voilà, beaucoup plus sur le local. J'ai été très 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 impliqué dans les AMAP, dans une association qui s'appelle Slow Food. J'ai été impliqué dans pas mal de. Et donc là c'est pareil, j'ai aussi un peu changé de paradigme par rapport à la consommation. Ça c'était un des points aussi qui a fait que mon
départ. C'est une prise de conscience en fait.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Une prise de conscience. C'est vrai que maintenant ça nous paraît tellement évident que les voyages ça coûte cher, pas seulement financièrement, mais aussi en CO2 et tout ça. Moi, je faisais 3 pays par semaine. Enfin, c'était délirant. Imaginez le nombre de miles que je pouvais faire et le nombre de tonnes de CO2 que j'ai pu consommer. Enfin, c'est complètement aberrant. Alors qu'une grande partie de ces voyages aurait pu être évitée si on faisait du télétravail et en tout cas de la visio comme il existe maintenant. Et il y avait déjà ça à l'époque chez Mars. C'était déjà des précurseurs là-dessus. Et également sur la consommation au supermarché. Je me rappelle à l'époque, je jetais beaucoup plus de mon frigo parce que j'avais pas le temps de tout manger ou parce que j'avais trop acheté ou parce que. Et voilà. Et donc, et je pense que là-dessus, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Je donne plus à des associations caritatives que même si j'ai moins d'argent maintenant que ce que je pouvais donner à l'époque. Puis j'achète plus local, et puis j'achète plus, je fais plus attention à la qualité des produits, je fais plus attention à l'origine, etc., etc.
En fait, vous étiez dans un espèce de tourbillon dans cette grande entreprise, et puis c'est comme si vous aviez atterri là maintenant, non?
Peut-être, oui, c'est possible. Et c'est pas forcément que c'est critiquable, parce que à l'époque, est-ce qu'on avait forcément une notion de ça? Je pense qu'on commençait peut-être à se poser des questions sur l'environnement, on commençait peut-être à se poser des questions sur la consommation générale, mais pas tant que ça. Enfin, il y a 10, 15, 20 ans, c'était non, au contraire, c'était allez-y, consommez, ouais.
Alors c'est quoi la suite, Sébastien?
Bah la suite, c'est pas forcément la suite à la place de, c'est la suite en plus de. Au fur et à mesure de tous ces développements de kits, je me suis découvert une autre passion supplémentaire qui est le brassage de bière. Hein. Depuis 5, 6, 7 ans, est devenu super intéressant, super important. Et avec l'avènement des microbrasseries, alors il y a de tout. Hein. Maintenant, il y a aussi bien la petite brasserie du village qui va vendre ses bières dans les quelques kilomètres autour, jusqu'aux ce qu'on appelle les beer geeks, hein, donc les brasseries très très spécialisées avec toutes ces nouveaux styles de bière qui existent maintenant, qui viennent des pays anglo-saxons. J'ai découvert aussi beaucoup d'intérêt gustatif à ce produit, hein, qui suit surtout vin depuis très longtemps. Là, je me demande même si parfois je suis un peu plus maintenant beer geek que wine geek. Aussi bien en tant que consommateur que en tant que petit brasseur amateur, je me suis dit ça me lasse maintenant, je veux aller plus loin, quoi. Et donc voilà, je suis en train de bosser sur ça va se faire normalement, hein, c'est ça, mon sous peu, mars, avril, mai, l'ouverture d'une brasserie artisanale sur la région de Strasbourg. Donc voilà, je m'associe avec deux amis qui sont aussi passionnés. Donc ça va être intéressant. Donc c'est un nouveau projet qui va encore me faire papillonner les yeux, puis mettre des paillettes dans les yeux, comme dirait l'autre.
Et alors, elle s'appelle comment cette brasserie?
On ne sait pas encore. Ça, c'est pas encore décidé. On est en plein brainstorm. C'est pas facile, mais on sait déjà le type de bière qu'on va faire. On sait déjà un peu le type de produit. Ça sera dans un esprit vraiment culinaire. Ça sera des bières qui auront
vraiment ce côté
un peu gastronomique, quoi. C'est ça.
Ouais.
Des plats ou pas que des plats, hein, c'est aussi un petit peu dans la veine de brasseries comme les Intables, pour pas les nommer, sur Strasbourg, ou Bendorf qui font des très belles choses. Si on reste sur Strasbourg, si on va un peu plus loin, il y a les Piggy Brewing Company sur le côté de Nancy, il y a Hoppy Road, il y a des brasseries comme la Débauche, il y a Aérofab, enfin, il y a une bonne vingtaine, trentaine de brasseries en France qui font des choses assez que je pourrais moi en tant que cuisinier qualifier de gastronomique, hein, qui ont toute leur place dans le milieu de gastronomie, effectivement, qui est pour l'instant très très galvaudé, très méconnu et surtout très peu exploité. En fait, la gastronomie ou on va dire la restauration et le CHR en général, donc café, hôtellerie, restaurant, sont phagocytés par les deux gros Heineken et Gros, et donc en gros qui mettent même des bâtons dans les roues aux petits, hein, pour s'installer dans les brasseries, les bars et restaurants. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Il y a aussi un beau marché à prendre. Mais voilà, je compte un peu, ou j'espère que mon petite histoire, les 10 ans que j'ai passé dans cet univers me permettront d'ouvrir quelques portes. Et puis faire découvrir ces belles choses. Ce soir, à Cuisine Aptitude, par exemple, je vais faire un atelier de dégustation de bière pour un after-work qui va être organisé. Bon, moi, je pense que ça va être ce genre de choses qu'il faudra développer, c'est effectivement faire découvrir ce type de bière qui n'est pas la fameuse blonde, blanche, ambrée, brune classique qu'on peut trouver dans 94% des brasseries en France. Donc, c'est excitant, c'est encore un truc nouveau, c'est un truc, y a plein de trucs à faire, donc allons-y gaiement.
Il y a une musique qui vous donne la pêche comme ça?
Il y a une musique qui me donne la pêche, oui, ça va être des morceaux de jazz. Qui sont sympas comme Herbie Hancock. We'll be right back.
Bah écoutez, Sébastien, c'est passionnant. Hein, on se demande toujours qu'est-ce que vous allez nous inventer. Moi, je vous ai rencontré un cours de cuisine et pourtant, je suis vraiment nulle en cuisine, mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Alors, ce podcast s'appelle Le Podium. Aujourd'hui, on va dire que vous êtes sur la marche haute du podium. Qu'est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur ce podium ?
Déjà, la marche haute du podium, je ne la fais pas tout seul. Cette marche haute, je la partage avec ma petite femme, avec Sophie, qui finalement subit au jour le jour mes folies entrepreneuriales et mes folies tout court. Je partage cette première place, si tant est que je mérite une première place, mais avec elle, ça c'est certain. Et les autres places, Florian Zitz, qui est la chef du Cocoon, et Sacha Cobrine, qui est mon ami danseur, qui est à côté, là, a eu le courage de se lancer pour faire un CAP cuisine suivi d'un CAP boulangerie. Donc voilà, il est en pleine réflexion, il est en pleine discussion avec lui-même et son entourage pour what's next, quoi. Quelles seront les prochaines étapes pour lui? Donc c'est quelqu'un avec qui je suis très très proche, avec qui on partage beaucoup de discussions, de réflexions.
Donc les ingrédients pour un changement de cap comme vous avez pris, c'est quoi à votre avis?
Déjà, c'est peut-être un petit grain de folie au départ pour se dire allons-y, mais aussi tout simplement avoir envie de faire quelque chose de bien dans sa vie, envie de s'amuser, envie de choisir un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Tant que ça n'impacte pas trop ma famille, il faut que ce soit un équilibre qui ne rende pas les autres chèvres non plus. Il faut prendre ce genre de décision, il faut y aller en se disant allons-y, il faut peser un peu quand même un certain nombre de pour et contre, hein, évidemment, faut pas y aller aveuglément non plus, faut pas aller au casse-pipe. Mais si c'est réfléchi, si c'est vraiment basé sur une passion et une envie et que derrière on a de la matière pour développer cette chose-là, faut y aller, faut pas hésiter.
Quand on est passionné comme vous, trouver l'équilibre entre j'ai envie de vivre ma passion, je m'éclate, je donne des cours de cuisine, j'ouvre une microbrasserie, je développe des kits, et puis je m'occupe de ma famille, je suis là, à l'écoute. C'est difficile, ça.
Il faut être à l'écoute des signes que les autres peuvent nous dire. Attention, tu es en train de partir, quoi. Il faut être vigilant, notamment quand on a eu une expérience de burn-out ou de fatigue au travail en le passé. Il faut aussi être vigilant avec soi-même. Il faut être boulimique, mais il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Il faut pouvoir faire les choses qu'on est capable de faire. Sinon, après, ça peut être dangereux, donc pour soi ou pour les autres.
Vous viendrez nous parler de votre microbrasserie quand elle sera lancée. Merci Sébastien. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On a fait cet entretien à distance, pandémie oblige, pour autant, on a partagé un super moment. Donc, comme quoi, on peut très bien partager à distance. Vous faites des cours de cuisine à distance ?
On fait des cours de cuisine à distance, tout à fait. On a déjà fait toutes les semaines pratiquement des cours à distance comme ça. Et puis effectivement, il peut y avoir en face 50, 100, 200 personnes, 250 personnes. Je crois qu'on a eu jusqu'à 1000 personnes.
Ah oui ?
Donc c'est chouette. Ouais, c'est un côté très...
Chacun se connecte à un horaire particulier. Il est dans sa cuisine et il va faire le plat.
C'est annoncé avant les ingrédients dont on va avoir besoin, une semaine avant. Et puis donc quand les gens se connectent, ils ont déjà fait leur course avant. Après, d'autres gens vont plutôt le faire en regardant comme un podcast,
en différé.
Donc, ils vont le suivre en différé. Puis sinon, il y a d'autres formules. C'est quand on le fait pour une entreprise, qu'au lieu de faire un team building, en ce moment, les entreprises, on leur conseille pas de faire du cours de cuisine en présentiel.
Ouais.
Donc, il y en a pas mal qui vont transférer ce cours de cuisine en présentiel, le faire en distanciel comme ça. Donc, on appelle ça en live. Donc, c'est rigolo parce que chacun est chez soi. On a une petite lucarne sur la maison des gens. On voit ce qu'ils produisent également. Donc, c'est comme quand on est dans la maison. Régulièrement.
Ils peuvent poser des questions. Ils peuvent.
C'est ça, exactement. Oui, tout à fait.
Génial.
Il y a soit verbalement, si on n'est pas trop nombreux, soit avec le chat, on a toujours un de nos collègues qui est à côté derrière l'ordinateur qui répond aux questions. Et puis, donc ça, c'est assez sympa. Et puis, puis souvent, on voit la famille avec. C'est comme les ateliers qu'on fait, que ce soit à Cuisine Aptitude ou à Angers, aux ateliers de Radio Capucine. L'idée principale, c'est de se dire qu'en fait, les gens n'ont pas forcément beaucoup d'équipement à la maison. Donc, on va faire des ateliers, on va faire des cours, on va faire des recettes que tout un chacun peut refaire avec le matériel qu'on trouve assez classiquement dans toute cuisine.
Merci Sébastien, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé, pour cet entretien très énergisant, c'est ce que j'ai dit au départ et ça s'avère tout à fait juste. Merci beaucoup.
Oh,
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.